Mais la lutte est toujours là, et je crois, à mon avis, qu'il y a plus de gens que jamais qui en participent à leur façon.
Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là, à force de jouer avec nos nerfs, fragile les nerfs. Et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule. Ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis. Si je vous dis maquis, qu'est-ce que vous me répondez?
Je dis stop.
Putain d'enculé de fasciste de merde.
Putain d'enculé de fasciste de merde.
Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister?
Et vous, là, affreux. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balais.
C'est l'agenda des luttes sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission qui relaye les rendez-vous militants et culturels en Île-de-France. Une émission que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi, de midi à 12h30. Si vous voulez nous envoyer des informations ou simplement nous joindre, vous pouvez nous écrire au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris ou à l'adresse de l'émission agenda@rfpp.net. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 05 03 70 ou au 01 40 05 06 10 pour intervenir en direct. Et pour écouter toutes les émissions ou avoir accès aux informations pratiques des événements dont on parle, rendez-vous sur le site de l'émission agenda.rfpp.net.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'agenda de Fréquence Paris Pluriel et tout de suite les infos et rendez-vous militants pour ce mercredi 1er juin. Entre midi et 14h, la cantine solidaire à prix libre de la Flèche d'Or sera ouverte et c'est au 102 bis rue de Bagnolet, métro Alexandre Dumas. De 12h30 à 14h30, c'est la cantine des Gilets jaunes de Montreuil qui sera ouverte et c'est à l'Aéry, au 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, métro Croix de Chavaux. À 13h30, le collectif des travailleurs sans papiers de Vitry-sur-Seine, l'Union syndicale solidaire et Sud-PTT organise un rassemblement de soutien aux travailleurs sans papiers en grève pour leur régularisation et exiger qu'une délégation soit reçue par le ministère de l'Intérieur. Depuis fin octobre, trois grèves de travailleurs sans papiers ont démarré successivement avec des piquets devant les entreprises à RSI, une société d'intérim basée à Gennevilliers, DPD, filiale de La Poste pour le colis au Coudray-Monceau, et Chronopost, l'autre filiale colis de La Poste à Alfortville. Ils réclament leur régularisation auprès des préfectures qui depuis font la sourde oreille. Face aux grèves, les préfectures et le pouvoir ferment les portes et manœuvrent dans l'Essonne. La préfecture d'Évry reçoit les délégations lors des manifestations, mais c'est chaque fois pour couvrir les manœuvres grossières et provocatrices de La Poste et de son sous-traitant de Richebourg, qui refuse de se reconnaître comme employeur des travailleurs sans papiers en lutte, s'asseyant y compris sur les conclusions de l'inspection du travail. Dans les Hauts-de-Seine, la préfecture de Nanterre ne s'intéresse pas aux règles. Depuis le 3 décembre, 83 grévistes ont reçu de l'entreprise les documents de régularisation, les CERFA. Une grande partie rentre de ce fait dans les critères de régularisation, mais la préfecture ne les applique plus. Elle se refuse à définir qui pourrait être régularisé. De plus, elle campe dans son refus de recevoir une délégation des grévistes de RSI. Dans le Val-de-Marne, la préfecture de Créteil a reçu une délégation le 31 janvier dernier, mais sans retour depuis, et a refusé de recevoir les grévistes sans papier lors des dernières manifestations. Cette attitude des préfectures face aux grèves traduit une complicité affichée du pouvoir avec les employeurs, publics ou privés, qui profitent massivement de l'exploitation du travail précaire et des travailleurs sans titre pour s'assurer des profits colossaux basés sur la négation des droits du travail et des droits sociaux élémentaires. Le refus de recevoir les grévistes sur le 92 et le 94 est aussi cohérent avec le mépris de classe affiché par le pouvoir pour ceux qui ne sont rien. Aussi, pour exiger la régularisation de tous les sans-papiers et dans l'immédiat la régularisation des occupants des trois piquets de grève RSI, DPD et Chronopost, un rassemblement est donc organisé à 13h30 sur la place Saint-Augustin pour exiger qu'une délégation soit reçue au ministère de l'Intérieur. Au Aujourd'hui encore, le secteur social et médico-social est en grève et la commission de mobilisation du travail social en Île-de-France propose des rendez-vous. Alors que les réalités quotidiennes dans les services sont toujours aussi difficiles, sous-effectifs, pression, petits salaires, manque de moyens, alors que la dernière séquence de mobilisation du secteur qui s'est ouverte le 7 décembre dernier a été très suivie et a contraint le gouvernement à faire des propositions pour l'amélioration des conditions de travail et d'accueil, le compte est loin d'être atteint. En effet, des filières de métiers sont encore exclues, notamment les filières administratives et techniques. Les primes sont incertaines et très insuffisantes, notamment face à la flambée des prix et au gel des points d'indice pour le privé comme pour le public. Le démantèlement des formations et des conventions collectives se poursuit, avec pour conséquence la dégradation des conditions de travail et d'accueil du public. Et aucune annonce n'a été faite sur l'augmentation de moyens humains et financiers pour répondre aux besoins de la population et ainsi faire face à la dérive gestionnaire. Aussi, pour la commission du travail social en Île-de-France, il est nécessaire de poursuivre la construction d'un rapport de force pour contraindre le gouvernement à mettre de véritables moyens dans le secteur social et médico-social. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la grève nationale du secteur se poursuit et la commission de mobilisation du travail social en Île-de-France propose à 14h un rendez-vous à République pour un atelier banderole et une distribution de tracts. Depuis 9h ce matin et pendant 3 jours, le projet ERC Tarika sur les changements politiques et socio-institutionnels en Afrique du Nord organise un colloque sur les changements politiques et socio-institutionnels en Afrique du Nord, concurrence des modèles et diversité des trajectoires nationales. Plus d'une décennie après le déclenchement des printemps arabes, force est de constater que la situation qui prévaut dans les pays de la région est loin d'avoir répondu aux espoirs de démocratisation et de justice sociale à l'origine des révoltes populaires de 2010-2011. Si ces dernières ont été tout d'abord interprétées comme renvoyant à l'inclusion du monde arabe dans le mouvement planétaire de démocratisation politique, les dynamiques de restauration autoritaire et les conflits violents qui ont marqué les trajectoires de plusieurs pays ont par la suite conduit les analystes à qualifier les processus observés de démocratisation ratée ou d'échec des printemps arabes. Certes, ces interprétations introduisent une rupture avec la thèse de l'exceptionnalisme arabe. Elles restent cependant inscrites dans le paradigme de la transitologie et dans une vision téléologique du changement politique ayant pour référence le modèle de la démocratie occidentale. Pourtant, les bouleversements post-2011 en Afrique du Nord ont généré des processus de transformation profonde et des configurations politiques très variées, réformes politiques négociées au Maroc, dialogue national et processus électoraux en Tunisie, jusqu'à une date récente, reprise en main par l'armée en Égypte et guerre civile en Libye. Ces situations variées renvoient aux mobilisations d'acteurs dont les ressources, les intérêts et les logiques d'action sont très différentes. C'est à l'analyse de ces mobilisations que s'est attaché le projet ERC Tarika, changement politique et socio-institutionnel en Afrique du Nord, et ce depuis son démarrage en 2017. Et au moment où les pays de la région traversent une crise multidimensionnelle et où les analystes sont de nouveau pessimistes quant aux perspectives de démocratisation des systèmes politiques et de l'ordre social, y compris en Tunisie, pays pionnier du printemps arabe, ce colloque de l'ERC Tarika est l'occasion de mettre en lumière le caractère complexe, contradictoire et non linéaire des dynamiques à l'œuvre en Afrique du Nord depuis 2011. Alors au programme d'aujourd'hui, les discussions reprendront à 14h et reviendront sur les processus électoraux et la reconfiguration de l'espace politique en Afrique du Nord avec Maher Ben Reba et David Gurry qui proposeront une analyse comparative des territorialités du vote au Maroc et en Tunisie. Alia Ghana qui reviendra sur les élections municipales du 6 mai 2018 en Tunisie. Belkacem Benzenine qui parlera des élections locales de novembre 2017 en Algérie. Soraya Rahem de la reconfiguration politique et du pouvoir local en Libye et Gilles Van Ham des classes sociales et de l'islam politique en Afrique du Nord depuis 2011. À partir de 16h30, un autre panel de discussion s'intéressera aux changements et aux permanences des partis et des organisations islamistes, en s'intéressant à l'idéologie, à la mobilisation et à la violence politique. Et demain matin, à partir de 10h, les discussions reprendront et s'intéresseront à la gestion du passé et à la justice transitionnelle, avec un focus sur les enjeux du processus de réconciliation au RIF, un autre sur la décennie noire en Algérie et un autre sur le traitement juridique de la répression en Kabylie. Et si vous voulez retrouver le programme complet de ce colloque de 3 jours, rendez-vous sur le site de l'agenda. Et pour y participer, rendez-vous sur le campus Condorcet, dont l'entrée se fait par la Cour des Humanités à Aubervilliers, c'est au métro Front Populaire. De 16h à 20h, l'association Asteria ouvre sa permanence hebdomadaire Envie d'agir. L'association Asteria conseille et oriente les personnes qui souhaitent contribuer à rendre notre société plus solidaire, écologique et démocratique et vous aide à trouver la manière d'agir qui vous correspond, rejoindre un mouvement citoyen ou une association, adhérer à une coopérative ou encore porter une initiative dans sa ville ou son quartier. Et si vous voulez vous rendre à la permanence Envie d'agir de l'association Asteria, rendez-vous de 16h à 20h au 31 rue du Nord, c'est au métro Saint-Plon. À partir de 18h, l'AERI propose son atelier d'artivisme contre la propagande publicitaire. Et si vous voulez y participer, pas besoin d'être graphiste ou dessinateur. L'atelier est ouvert à toutes et tous. Et c'est à partir de 18h à l'AERI, au 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, métro Croix-de-Chavaux. Suite à l'attaque menée par les fachos, le collectif La Chapelle Debout organise une nouvelle soirée de soutien à l'ambassade des immigrés à partir de 19h ce soir. Il y a quelques semaines, des personnes exilées et solidaires de toute nationalité ont ouvert un bâtiment vide dans les beaux quartiers parisiens et y ont installé l'ambassade des immigrés. Il y a 10 jours, 2 nuits, des militants d'extrême droite, masqués, t-shirts blancs avec drapeau français, armés de matraques, l'ont attaqué en tentant d'y pénétrer de force. Face à la résistance et à la vigilance des habitants de l'ambassade et des personnes solidaires, les fachos n'ont pu que casser une vitre et utiliser du gaz avant de s'enfuir. Alors si vous voulez vous rendre sur place pour soutenir l'ambassade des immigrés, c'est au 17 rue Saulnier, métro Cadet. Et pour la soirée de soutien organisée par le collectif La Chapelle Debout, c'est à 19h ce soir, au bar chez Tony. C'est au 2 rue des Petites Écuries, métro Château d'Eau. Et il y a aussi besoin de dons pour pouvoir réparer la vitre. Et si vous voulez soutenir financièrement l'ambassade des immigrés, rendez-vous sur le lien vers la cagnotte en ligne que vous retrouverez sur le site de l'agenda. À 19h, l'association Stop Fooling War propose une discussion publique sur les conséquences du militaire sur l'environnement dans le cadre du salon de l'armement Eurosatory qui aura lieu du 13 au 17 juin prochain à Villepinte. 3 mois après la publication du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Eurosatory 2022 a lieu dans un contexte d'urgence climatique. Alors quels sont les liens entre le commerce des armes et le réchauffement climatique? Quels sont les impacts du secteur militaire et du commerce des armes sur notre environnement? L'armée américaine, par exemple, émet plus de CO2 qu'un pays comme la Finlande ou le Portugal. Une étude a estimé que le secteur militaire français est responsable d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre produites par les armées européennes. En 2019, l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, disait dans un discours que les armées françaises ont l'empreinte environnementale la plus importante de l'État et que nous avons l'impérieux devoir d'être un acteur volontaire et engagé de la transition énergétique. Pourtant, nous ne connaissons pas les chiffres précis de l'empreinte carbone de l'armée française, ni des industriels de l'armement ou du commerce des armes. Et si vous voulez discuter des liens entre l'industrie militaire et l'environnement avec l'association SFW, rendez-vous à 19h à la base, c'est au 31 rue Bichat, métro Goncourt. À 19h, Extinction Rébellion Île-de-France Paris et Extinction Rébellion France organisent une conférence autour de la question « Pourquoi allons-nous vers une extinction de masse et comment y faire face ?» Et si vous voulez discuter fin du monde et moyens d'y faire face avec des militants et militantes d'Extinction Rébellion Paris Île-de-France, rendez-vous à 19h au 5 Toits, c'est au 51 boulevard d'Exelmans, métro Exelmans. À 19h aussi, Extinction Rébellion Île-de-France Paris organise aussi une réunion d'accueil des nouvelles militantes et nouveaux militants. Et si vous voulez rencontrer les militants et militantes d'Extinction Rébellion et éventuellement les rejoindre, rendez-vous à 19h à la Fondation Charles-Léopold Meyer. C'est au 38 rue Saint-Sabin, métro Chemin Vert. À 19h toujours, le cycle de discussion « Tout refondé » organisé par l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy se poursuit avec une séance autour de Didier Héribon qui proposera un retour à Bourdieu, actualité de la sociologie critique 20 ans après sa mort. Et si vous voulez participer à cette discussion, rendez-vous à 19h à l'AEPP. C'est aux 4 rue Titon, métro Féderbe-Chaligny. À 20h, le collectif Non à Europa City, Oui aux terres de Gonesse organise une réunion publique sur les transports en commun et l'avenir des terres du triangle de Gonesse. Le gouvernement et la société du Grand Paris veulent construire une gare dans les champs du triangle de Gonesse afin d'urbaniser les terres agricoles. Mais cette gare serait à plus de 1,7 km des premières habitations dans une zone interdite au logement à cause des avions. Le collectif pour les terres de Gonesse demande de mettre l'argent de cette gare dans l'amélioration des transports du quotidien, comme le RERD et les bus et trams, et de protéger les terres agricoles parmi les meilleures d'Europe. Et si vous voulez en discuter collectivement, ils organisent cette réunion publique ce soir à 20h et c'est à la maison de quartier Boris Vian aux 4 rue Scribe à Villiers-le-Bel. Enfin, à partir de 9h30 demain matin et toute la journée, l'équipe du séminaire sur les conflictualités au travail organise un atelier de recherche intitulé « Des conflits confinés, travail et mobilisation collective dans un monde pandémique ». L'objectif de cette journée est d'ouvrir un moment de réflexion collective sur la manière dont la pandémie reconfigure la conflictualité au travail à partir de travaux en cours de réalisation ou d'analyse. Dans cette optique, il s'agira de faire dialoguer des chercheurs et chercheuses qui ont enquêté pendant les moments forts de la pandémie pour tirer les leçons de cette conjoncture en ce qui concerne les mobilisations des salariés, les formes d'action syndicale et les conflictualités dans un sens large. Au programme demain matin, il y aura des discussions sur l'action syndicale en temps de pandémie avec Safia Doumenc, Lina Cardona et Sophie Bérou de l'Université Lyon 2 qui reviendront sur le Covid et les reconfigurations de la conflictualité dans le secteur de l'aide à domicile. Willy Gibard de l'Université Lyon 2 aussi qui parlera de lutter sous contraintes sanitaires, une promenade de santé entre détachement, accommodement et débrouille syndicale. Karel Yon de l'Université de Nanterre qui interrogera la conflictualité digitalisée à travers les réseaux sociaux numériques et la construction des mobilisations au travail dans la restauration rapide et la distribution sportive. Et dans l'après-midi, les discussions porteront sur les contestations et conflictualité du sommet au bas de l'échelle. Et si vous voulez assister à cette journée d'études, rendez-vous à partir de 9h30 demain matin. Ça se passe dans la salle 221 du site Pouchet du CNRS et c'est au 59 rue Pouchet métro Brochamp. Et vous pouvez aussi suivre la journée d'études en visioconférence via le lien que vous retrouvez sur le site de l'agenda. Et on va se faire une pause musicale avec la Caravane Pass qui sera en concert ce soir au Trabendo. On s'écoute la valse Manouche.
Ça valse Manouche. Ça valse Manouche. Me v'là, je débarque ou qu'il y a de la place. Je fais pas un pli, je laisse pas une trace. Je me vends à gauche, à droite, je tacle les claques. Je me ramasse et je valse. Je suis pas venu pour tenter le diable, ni pour un cantel notable. Les dieux d'ici, de là d'ailleurs, je m'en tape tant que c'est pas mon heure. Je viens, je m'installe, je m'étale, je campe, je déballe un tas de trucs qui tentent. Je troque mon stock et on s'arrange. En gentil gitan qui dérange pas, je promets de tout remettre en place. De ranger dans leur carapace les badauds de sortie, les paysans qui me chassent de leur parvis. Ça valse. Manouche, ça valse, manouche. Je te vois qui valse plus ou moins bien au gré des vents, mais les épouvantails te poussent, te pressent et te tourmentent. Je t'invite à rentrer dans mon antre. On peut se faire une valse manouche, même si on n'est pas pure souche. Les dieux d'ici, de là d'ailleurs, je m'en tape tant que c'est pas mon heure. Agrippons-nous, tenons-nous fermes, tournons jusqu'à creuser notre trou. Je m'accroche à toi, tu te trouves à moi, je me tramponne, tu me traînes et je t'emmène. Je sais pas faire de danse de salaud, ni tourner la tête en tango. Je tourne le drame à la collade, c'est dur à suivre les pas de nomades. Ça valse, manouche. Ça valse, manouche. Ça prend la route à la dérive sur départemental. On s'enlise, on se perd, on se paume, on sort. On se retrouve à réciter des psaumes. Mais le GPS déraille, nous revoilà chez les épouvantails qui nous attaquent comme des corbacs insensibles. Au son de la vache, me fais arracher ma danseuse avec un coup dans les valseuses. Et les gendarmes rentrent dans la danse, me font dégager sans audience. J'en vois de toutes les couleurs, mon œil rouge est noir si au beurre. Mes bleus me crament pile sur ma face, je suis vert comme un manouche qui valse. Yolalolai, 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 yolalolai. Je suis vert comme un manouche qui valse.
Et on reprend avec les rendez-vous culturels de 16h30 à 18h30. Le séminaire Perspectives féministes en sociologie politique organisé par l'Université de Lille se poursuit avec une séance que vous pouvez suivre en ligne. Et pour la séance d'aujourd'hui, Myriam Bahafou viendra présenter une partie de son travail de recherche avec une communication intitulée « Quand les doulas enseignent le soin des morts et des mortes », une relecture écoféministe du mythe de Déméter et de Corée en temps de Saint-Démy. Et si vous voulez suivre cette séance en ligne, il faut demander le lien en envoyant un mail à Perspectives féministes tout attaché à tiaou.com. À partir de 18h, Solidaires étudiants Sorbonne propose une projection débat autour du film Sorry We Missed You de Ken Loach. Et si vous voulez revoir ce film qui dénonce les dérives de l'ubérisation et les ravages qu'elle peut exercer sur la vie d'une famille, rendez-vous à 18h sur le campus de Jussieu. Ça se passe dans l'amphithéâtre 25 et c'est au métro Jussieu. À 18h30, l'association Décroissance Île-de-France propose une soirée de discussion autour du livre de Jason Hickel intitulé « Moins pour plus, comment la décroissance sauvera le monde » est paru aux éditions Époque Épique. À la jonction des grandes préoccupations de notre époque que sont l'urgence climatique et le ralentissement de l'économie, Jason Hickel explore ce qu'il pense être les meilleures solutions à la crise actuelle, un nouveau modèle économique et une nouvelle façon d'envisager notre rapport à la nature. L'auteur, convaincu que notre système économique basé sur une croissance perpétuelle conduira le monde à sa perte, affirme que la seule solution possible aujourd'hui est d'opter pour la décroissance. Qu'en serait-il alors du travail, de la santé ou du progrès? Jason Hickel s'empare de ces questions pour offrir la vision de ce que pourrait être une société post-capitaliste qui favoriserait l'épanouissement de l'être humain et renverserait le processus de destruction écologique. Et si vous voulez en discuter avec des membres de Décroissance Île-de-France, rendez-vous à 18h30 à la Maison de la vie associative et citoyenne du 12e qui se trouve au 181 avenue Doménil, métro Doménil. À 19h, la librairie El Gorba Mon Amour organise une rencontre avec Juliette Volclair autour de son dernier livre L'orchestration du quotidien, design sonore et écoute au XXIe siècle, paru aux éditions La Découverte. Et si vous voulez en discuter avec Juliette Volclair, chercheuse indépendante, productrice et critique sonore et autrice des livres Le son comme arme, les usages policiers et militaires du son et comment s'inventa l'art de la manipulation sonore, rendez-vous à 19h à la librairie El Gorba Mon Amour, c'est au 148 boulevard des Provinces Françaises, à Nanterre. À À 19h30, la Petite Roquette propose la projection du documentaire Les Valoristes de Valentin Besson. Durant un mois, Valentin s'est immergé dans la vie de la ressourcerie La Petite Roquette, située à côté du Père Lachaise, pour en dresser un portrait au plus près de celles et ceux qui y travaillent et la font vivre. Dans un monde où le capitalisme est roi, il existe des lieux et des personnes œuvrant pour un avenir plus éthique et plus durable. La ressourcerie de La Petite Roquette en est un exemple concret. Ce film nous plonge au cœur de ce lieu atypique, au plus près de ceux et celles qui revalorisent nos déchets. Et si vous voulez découvrir ce film et en discuter avec son réalisateur Valentin Besson et l'équipe de La Petite Roquette, rendez-vous à 19h30 à la ressourcerie, c'est au 125 rue du Chemin Vert, métro Père Lachaise. À 20h, la librairie Quilombo et les apéros politiques du CICP organisent à l'occasion de sa venue en France une rencontre avec Al Pacha autour de son livre « Le livre de la jungle insurgée », plongé dans la guérilla naxalite en Inde, paru aux éditions de la Dernière Lettre. Cette nuit, pour parcourir 250 km dans la forêt et raconter la guérilla méconnue des naxalites, les communautés insurgées d'une Inde secouée par la croissance économique et ses projets extractivistes. Merveilleuse conteuse, l'anthropologue Al Pacha nous embarque pour 300 pages d'une analyse vivante et nuancée. Le mouvement révolutionnaire naxalite, basé dans les forêts du centre et de l'est de l'Inde, est en guerre depuis 50 ans contre l'État indien. Ces hommes et ces femmes qui combattent dans les rangs des naxalites, que les médias présentent comme un groupe terroriste sanguinaire, sont des membres des basses castes et des communautés tribales alliées à des rebelles héritiers du marxisme-léninisme pour opposer au grand projet d'infrastructure une vision du monde égalitaire et communautaire. En 2010, l'anthropologue Al Pacha enfile un treillis et s'embarque pour une randonnée de 7 nuits avec une escouade, parcourant 250 km à travers les forêts denses et accidentées de l'est de l'Inde. Dans ce récit intimiste et limpide, paru en anglais en 2019, elle nous plonge nuit après nuit dans un carnet de route époustouflant. Son récit à la première personne met en scène ses fatigues et ses attentes, décrit minutieusement les scènes de cuisine ou d'ablution féminine et nous rappelle la biographie déroutante de certains jeunes compagnons Adivasi, les habitants autochtones des forêts qui rejoignent parfois la lutte pour de simples embrouilles familiales. En dialoguant avec des leaders révolutionnaires aux idées parfois rigides et en partageant le quotidien de villageois et villageoises sur les zones libérées par la guérilla, elle nous embarque au cœur de la dépossession et raconte pourquoi une part de la population pauvre de ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde s'est tournée depuis des décennies vers la lutte armée. Et si vous voulez en discuter avec l'anthropologue Al Pacha et Gustave Massia, rendez-vous à 20h à la librairie Quilombo. C'est au 23 rue Voltaire, métro rue des Boulets ou Nation. À 20h aussi, la librairie L'Atelier organise une soirée de discussion avec l'équipe des éditions 33 Morceaux qui présentera son projet. La maison d'édition 33 Morceaux a été créée à Lyon en 2014 et compte déjà 15 titres à son catalogue. Dans le préambule de son recueil en 33 Morceaux, René Char évoque une nuit où il marchait dans les rues de Paris, ses premiers ouvrages posés en équilibre sur sa tête comme une tour de verre. Soudain, la tour s'écroula et se brisa, il se baissa et ramassa dès lors les 33 morceaux qui composent le recueil. La création se définissait là comme recomposition des virtualités infinies contenu dans les poèmes précédents. C'est ce geste d'assemblage et de montage qui préside à la politique éditoriale de 33 morceaux. Chercher la matérialité de l'écriture et de l'œuvre, ses ruptures, ses bonds, l'événement que peut être un livre encore. Dans cette perspective, la maison d'édition souhaite former des ensembles et des collections qui transgressent les frontières de genre, d'époque et de langue, en bricolant à la façon dont Claude Lévi-Strauss décrivait le bricolage dans La pensée sauvage, cette façon de penser par affinité, voisinage, écho et contamination. Et si vous voulez en savoir plus sur le projet de la maison d'édition 33 morceaux, rendez-vous à 20h à la librairie L'Atelier. C'est au 2 bis rue du Jourdain, métro Pyrénées. À 20h toujours, le cinéma Le Studio propose une projection débat autour du film Tranché en présence du réalisateur Lou Bureau. Sur la ligne de front du Donbass, les soldats du 30e bataillon de l'armée ukrainienne affrontent les séparatistes soutenus par la Russie. Le réalisateur Lou Bureau nous plonge dans cette expérience de guerre à hauteur d'homme et au cœur des tranchées, là où chacun doit à la fois se protéger de la mort mais aussi tenter de recréer une normalité dans l'univers anormal du conflit. Et si vous voulez découvrir ce film et en discuter avec son réalisateur Lou Bureau, rendez-vous à 20h au ciné Le Studio, c'est aux 2 rue Édouard Poisson à Aubervilliers. Métro mairie d'Aubervilliers. Enfin, à 20h30, l'association mitrienne France-Palestine Solidarité propose une projection débat autour du film documentaire L'affaire Salah Hamouri de Nadir Dendoun, suivi d'un échange avec Elsa Lefort, compagne de Salah Hamouri. Le 23 août 2016, trois jours après avoir obtenu son diplôme d'avocat, Salah Hamouri, un franco-palestinien de 32 ans, a été une nouvelle fois arrêté par l'armée israélienne à son domicile de Jérusalem. Dans la foulée, un tribunal militaire, illégal au regard du droit international, a décidé de le placer en détention administrative pour une durée de 6 mois. La détention administrative permet en effet à Israël de maintenir arbitrairement des personnes en prison pendant plusieurs mois renouvelables indéfiniment, sans leur en notifier les raisons. Ce n'est pas la première fois que Salah Hamouri est incarcéré en Israël. Il a déjà passé près de 7 ans en prison entre 2005 et 2011, accusé d'avoir projeté l'assassinat d'Ovadia Yosef, alors leader du parti israélien ultra-orthodoxe Chass. À l'époque, Nadir Dendoun était journaliste indépendant. Il lui arrivait de travailler pour la télévision publique française et il s'est rendu compte que ni lui ni aucun de ses collègues n'avait entendu parler du cas de Salah Hamouri. Alors il a décidé d'aller, muni de sa caméra, à la rencontre de toutes celles et ceux qui ont été concernés par cette affaire. Dans ce film, il questionne le faible intérêt des médias pour le cas de ce franco-palestinien. Une interrogation d'autant plus légitime qu'à la même époque, le sort du soldat franco-israélien Gilad Shalit, capturé le 25 juin 2006 à la lisière de la bande de Gaza par des combattants proches du Hamas, avait fait l'objet d'une intense campagne politique et médiatique pour sa libération. Une interrogation d'autant plus légitime que depuis, Salah Hamouri a été réincarcéré par les autorités israéliennes sans que cela fasse davantage de bruit. Et si vous voulez découvrir ce film documentaire sur l'affaire Salah Hamouri, rendez-vous à 20h30 au cinéma Le Concorde. C'est au 4 avenue des Bosquets à Mitry-Mory. Et voilà, l'agenda est fini. Merci à Ahmed pour la technique. Pour retrouver toutes les infos, adresses et liens internet ou pour écouter en podcast l'agenda du jour ou le télécharger, rendez-vous sur le site de l'agenda sur rfpp.net. Tout de suite, c'est l'actualité des luttes et on se retrouve demain même heure pour un nouvel agenda. D'ici là, bonne écoute sur FPP.